Fatima à la console Zoubert El Tayyib.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 29 mai 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seluya. Tout d'abord les titres. Au Nigeria, Bola Tinubu doit prêter serment ce lundi et succéder au président Muhammadu Buhari. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko ramené manu militari à Dakar. En Côte d'Ivoire, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo promet de se donner tous les moyens légaux pour l'inscrire sur la liste électorale. Au Mali, la junte au pouvoir demande à Washington de cesser ce qu'elle appelle la désinformation sur l'armée et Wagner. En RDC, nouvelle attaque meurtrière contre les gardes du parc des Virunga. En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan est réélu dimanche pour 5 ans. Ici aux États-Unis, l'accord sur la dette prêt à être soumis au Congrès, annonce le président Joe Biden. Ne manquez pas notre passeport avec Élisée Oumpatine pour l'instant, le journal. Au Nigeria, c'est ce lundi que le nouveau président élu, Ahmed Bola Tinubu, prête serment à Abuja à la veille de cette cérémonie à laquelle plusieurs chefs d'État du continent sont invités. Le président sortant, Muhammadu Buhari, a défendu son bilan économique et le résultat d'une élection présidentielle contestée. La sécurité est renforcée à Abuja avant la cérémonie d'investiture. Les détails avec Gilbert Tamba à Abuja.
Abuja, la capitale fédérale du Nigeria et les 28 capitales des États fédéraux vivent au rythme de cette cérémonie d'investiture du président élu en février dernier. Les gouverneurs seront également investis. Dans son discours d'adieu, le président sortant Muhammadu Buhari a dit qu'il laissait au Nigeria un héritage solide avec des élections crédibles et équitables, convaincu d'avoir renforcé la démocratie dans son pays. Le président Buhari a reconnu avoir fait des choix difficiles sur le plan économique. Mais pour lui, la plupart de ses actions ont donné des résultats souhaités. Je suis persuadé que je quitte mes fonctions avec un Nigeria meilleur en 2023 qu'en 2015, a déclaré le leader de 80 ans. Un constat qui est cependant loin de faire l'unanimité. Son successeur Bola Tinubu va prêter serment alors que sa victoire en février est toujours contestée par une bonne partie de l'opposition. Dans la capitale fédérale Abuja, la sécurité est renforcée. Des barrages de sécurité sont installés sur plusieurs points stratégiques. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
En Côte d'Ivoire, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, formation de l'ancien président Laurent Gbagbo, a annoncé hier se donner tous les moyens légaux pour l'inscrire sur la liste électorale dont il est toujours radié 4 mois avant les élections municipales et régionales. Acquitté par la justice internationale de crimes contre l'humanité commis lors de la sanglante crise post-électorale de 2010-2011, Monsieur Gbagbo reste sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pour le braquage de la BCAO en 2011. Cette condamnation avait entraîné la déchéance de ses droits civiques et politiques et donc sa radiation des listes électorales. Au Sénégal, les forces de l'ordre ont mis fin abruptement dimanche à la marche de l'opposant Ousmane Sonko à travers le pays en l'interpellant dans le sud et en le ramenant de force à Dakar. C'est ce qu'ont indiqué les autorités Nani Talani.
Le ministre de l'Intérieur, Antoine Diom, a évoqué les heurts entre partisans de M. Sonko et forces de l'ordre qui ont accompagné depuis vendredi le retour de l'opposant à Dakar en convoi par la route et dans lesquels un homme a été tué. Il y a eu mort d'homme à Kolda. Est-ce que l'État va rester les bras croisés? La réponse ne peut être que négative, a déclaré le ministre à la télévision publique. Il a fait valoir que M. Sonko aurait dû faire une demande d'autorisation préalable avant d'organiser ce que l'opposant a appelé une caravane de la liberté depuis la Casamance. On a pu de ce fait encadrer le leader du parti PASTEF, M. Sonko, jusqu'à son domicile à Dakar où il a été déposé, a-t-il dit. Une source proche des autorités a précisé qu'Ousmane Sonko avait été interpellé près de Kungul par les gendarmes et ramené par eux vers la capitale. Le ministre de l'Intérieur a rapporté que des armes avaient été trouvées dans le véhicule transportant M. Sonko. Le sort de l'opposant, engagé depuis 2 ans dans un bras de fer avec le pouvoir en vue de la présidentielle de 2024, donnait lieu à des spéculations depuis plusieurs heures. Ousmane Sonko, candidat déclaré à cette présidentielle, mais menacé d'inéligibilité par des affaires judiciaires qu'il dénonce comme un complot de l'État, n'a plus donné de nouvelles publiques depuis dimanche matin. Son parti l'a déclaré introuvable et injoignable. Mais, selon donc le ministre Antoine Diom, M. Sonko a été déposé à son domicile à Dakar.
Le parti du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a renforcé sa majorité à l'Assemblée nationale, raflant 1 an avant la présidentielle 107 sièges sur 176 à l'issue des législatives, selon les chiffres publiés dimanche par la commission électorale. L'opposition ne dispose que de 27 sièges. Ces partis et certaines forces de la majorité ont contesté la régularité du scrutin et réclamé un nouveau vote. L'un des députés élus, le militant anti-esclavagiste Biram Daa Abeid, a déclaré que la gravité de la situation pouvait conduire certains Mauritaniens à prendre les armes. Il a été arrêté puis libéré vendredi. Au Mali, la junte au pouvoir a appelé dimanche les États-Unis à cesser la campagne de désinformation qu'ils mèneraient, selon elle, après les sanctions infligées à 2 officiers maliens, Mustapha Sangaré et Lassine Togola, que Washington accuse d'avoir pris part à un massacre à Moura, dans le centre du pays, en 2022. Lionel Gahima.
Dans un communiqué, le porte-parole malien, le colonel Abdoulaye Maïga, a dit que son gouvernement a appris avec stupéfaction la décision unilatérale du gouvernement américain de sanctionner les 2 officiers maliens sur l'unique fondement du rapport des Nations Unies, rapport rejeté par Bamako, qui le qualifie de biaisé. Selon le colonel Maïga, il a été signifié à l'ambassadrice américaine Raqqa Koronen l'extrême gravité des fausses accusations portées contre la République du Mali. Début mai, l'ONU a accusé l'armée malienne et des combattants étrangers d'avoir exécuté au moins 500 personnes en mars 2022 lors d'une opération anti-djihadiste à Moura. La junte au pouvoir, depuis 2020, demande la présence de Wagner, la société de sécurité privée russe, et parle d'instructeurs de l'armée russe déployés au nom d'une coopération d'État à État. À noter aussi que la semaine dernière, le Trésor américain avait également annoncé des mesures de rétorsion contre Ivan Maslov, qu'il présente comme le chef de Wagner au Mali.
En RDC, 2 éco-gardes ont été tués hier dimanche dans une nouvelle attaque contre le parc national des Virunga dans l'Est. Les détails avec Mohamedou Humfa.
Dans un communiqué publié dimanche, la direction du parc indique que les assaillants seraient membres du groupe armé Maïmaï Kabido, une milice à base communautaire parmi les dizaines qui sévissent dans l'est du pays. Anya Musengera, au cours d'une patrouille dans le parc près des rives du lac Édouard, qui marque la frontière avec l'Ouganda, 2 éco-gardes ont été touchés par balle et ont succombé à leurs blessures, précise le communiqué. Nous avons entendu des crépitements de balles. Un groupe de braconniers venait d'abattre un hippopotame et pour se protéger, ils ont tendu une embuscade aux gardes du parc, indique Kambale Mouindo, un fonctionnaire en poste à Vichumbi, un village de pêcheurs situé à environ 5 km du lieu de l'attaque. En plus des 2 décédés, 6 gardes ont été blessés et acheminés à l'hôpital catholique de Vichumbi, précise Blaise Kalisha, un défenseur des droits humains dans la zone. Plus vieille réserve naturelle d'Afrique, créée en 1925, le parc des Virunga est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Réputé pour sa faune et ses paysages grandioses, il est aussi connu pour servir de base arrière à de nombreux groupes armés depuis près d'un quart de siècle.
La Somalie a amorcé une refonte de son système politique avec un accord signé dimanche entre le gouvernement et les États fédérés. L'accord, qui doit être adopté par le Parlement, prévoit l'instauration du suffrage universel direct à partir de 2024 et le passage à un régime présidentiel à la place du régime parlementaire actuel.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a revendiqué dimanche la victoire au second tour de l'élection présidentielle. Son rival Kemal Kılıçdaroğlu a exprimé sa tristesse pour l'avenir du pays. Nani Talani.
Dès dimanche soir, le président Erdogan s'est adressé à une foule enthousiaste qui a convergé vers sa résidence stambouliote. Notre nation nous a confié la responsabilité de gouverner le pays pour les 5 prochaines années, a-t-il déclaré sur le toit d'un bus devant sa résidence. Nous tiendrons toutes nos promesses faites au peuple, a lancé le chef de l'État au pouvoir depuis 20 ans, affirmant que chaque élection est une renaissance. Cette élection a montré que personne ne peut attaquer les acquis de cette nation, a-t-il poursuivi. Le rival de M. Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu, a exprimé sa tristesse pour l'avenir de la Turquie. « Je suis profondément triste face aux difficultés qui attendent le pays », a déclaré le candidat malheureux et chef du principal parti de l'opposition turque qui s'exprimait depuis le siège de son parti à Ankara. Selon l'agence officielle turque Anadolu, M. Erdogan, au pouvoir depuis 20 ans, recueille 52,1% des suffrages contre 47,9% pour son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu après des comptes de près de 99% des voix.
L'accord sur la dette destiné à éviter aux États-Unis un défaut de paiement est prêt à être soumis au Congrès américain, a annoncé hier à la Maison-Blanche le président Joe Biden en exhortant les deux chambres à adopter cet accord. Kiev a été de nouveau frappé dans la nuit de dimanche à lundi par des drones explosifs et des missiles selon les autorités militaires, moins de 24 heures après avoir subi sa plus importante attaque de drones depuis le début de la guerre. Il n'y a eu ni mort ni blessé, a indiqué hier sur Telegram le maire de Kiev. Les Américains célèbrent ce lundi le Memorial Day, observé le dernier lundi de mai. Il honore les hommes et les femmes qui sont morts en servant dans l'armée américaine. Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Pour démarrer, football avec la finale aller de la Coupe CAF.
Oui, et l'USM Alger a pris une option sur la victoire après son succès 2-1 en déplacement sur le terrain des Tanzaniens de Young Africans. Le but de Fiston Maïlé n'a pas suffi aux Tanzaniens pour faire la différence. Les Algériens remportent ainsi la finale aller en attendant de confirmer au match retour samedi prochain.
Chez les jeunes, c'est la fin de la phase de groupe de la Coupe du Monde des moins de 20 ans.
Et le Sénégal sera le seul représentant africain qui ne sera pas au second tour. Le champion d'Afrique en titre a été éliminé après son nul 1-1 face à la Colombie. Une contre-performance très loin des ambitions de départ, d'où la déception du sélectionneur Malik Diaf qui regrette les nombreuses occasions ratées par ses joueurs.
Moi, sur ce match, on devait gagner pour passer parce que c'était ça la logique. Quoi. On a bien joué, on a mené 1-0, on a mené le score. Il y avait de la place pour mettre le deuxième but. Il y a eu des situations vraiment pour scorer le deuxième but. Mais malheureusement, on ne l'a pas fait. Après, sur les ultimes minutes, on a fait une erreur entre les stations de gardien de but et la défense. On prend un but anodin. C'est une ligne d'élimination. Mais c'est encore des jeunes qui doivent progresser. C'est ça le haut niveau. Les erreurs ne pardonnent pas. Je pense qu'il faut retourner au terrain et continuer à travailler.
La Tunisie, en ballotage, sera bien huitième de finale et jouera le Brésil. Un gros morceau aussi pour le Nigeria qui va affronter le pays hôte, l'Argentine. Enfin, la Gambie, qui termine en tête de son groupe, fera face à l'Uruguay.
Et puis, le dénouement de la Basketball Africa League avec le sacre d'Al Ahly du Caire.
Exactement, Idrissa. Le club égyptien a remporté la troisième édition de cette compétition en dominant l'AS Douane du Sénégal en finale 80-65. Il succède ainsi à l'US Monasti et permet à l'Afrique du Nord de garder le trophée pour la troisième année de suite. Et puis, c'est le Stade malien qui finit troisième après avoir battu en match de classement le Petro de Luanda.
Merci, Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidounia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Mahamad Ahmad Alabo, a rappelé dans une note circulaire aux auxiliaires de justice qu'ils sont les magistrats des parquets, juges de paix, officiers et agents de la police de police judiciaire. Un appel à l'ordre suite aux dysfonctionnements relevés dans la chaîne pénale qui met en difficulté la collaboration entre les différents services, nous dit N'Djamena, notre correspondant André Kotmadjingar.
Mahamad Ahmad Alabo exige des auxiliaires de justice le respect scrupuleux du délai de garde à vue qui est de 48 heures au Tchad. Le garde des Sceaux ne veut pas que des justiciables soient convoqués le week-end pour les placer en détention, sauf en cas de flagrant délit. Décision appréciée dans la rue de N'Djamena.
Ils attendent d'abord le week-end pour venir arrêter les gens. Pourtant, c'est un problème qui devrait peut-être que se résoudre aussi à l'amiable, mais ils font garder les gens pendant 2-3 jours.
Vraiment, ça, c'est notre circulaire à salir. Parce qu'on voit beaucoup de personnes. Ou si vous avez un petit problème, ils vont attendre le jour de vendredi, ils vont t'amener la convocation. Dès que vous êtes parti, le commissaire il va te dire que journée non ouvrable. Ils vont te garder en garde à vie jusqu'à lundi.
Je dirais que c'est une bonne décision, mais ça ne peut pas s'appliquer ici au Tchad. Ils prennent des décisions comme ça, 2-3 jours, on ne voit rien.
Le président de l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture, section du Tchad, Seylou Dorsoma, est également pessimiste et estime que ce rappel à l'ordre ne sera qu'un coup d'épée dans l'eau.
C'est un problème d'homme. Les magistrats sont des hommes de loi, les officiers de police judiciaire sont des hommes qui sont censés connaître la loi. Mais si, malgré l'existence des lois, les gens ne respectent pas, c'est pas à travers notre circulaire. Et vous savez que cette décision ne prévoit pas de sanctions. Tout est à refaire, mais c'est du côté du ministre. Ce n'est pas du côté de ceux qui sont chargés de gérer ces lieux de détention à leur guise.
Pour mettre Adam Boukar, président par intérim de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, le problème est plus profond et nécessite la réforme du corps de la police judiciaire.
Le ministre est au courant. Depuis des années, on appelle les gens pour des affaires civiles, commerciales, le week-end, on les arrête, on les torture. Et donc, il faut réformer le corps de la police judiciaire. Malgré que la police judiciaire est sous la coupe du ministère de la Justice, au sein de la Gendarmerie nationale, on a créé des corps parallèles. Les PSIC, les SNRJ, tout ça, on a créé. En toute illégalité, il faut le travail de la police judiciaire en violation flagrante des lois de la République.
Professeur Ahmad Mahamad Hassan, constitutionnaliste et ancien ministre de la Justice, salue la décision du ministre de tutelle parce que, dit-il, la justice tchadienne ne contrôle pas toute la chaîne du processus pénal.
Depuis plusieurs décennies, beaucoup de gens préfèrent la contrainte qui est exercée par les officiers et commandants de brigade et qui sont souvent analphabètes et qui, par leur proximité avec le pouvoir en place, se sentent détenteurs d'une certaine puissance pour intimider les gens. Ils convoquent les gens le vendredi pour les garder en prison en violation de toutes les règles de procédure et ils ne se sentent pas dans l'obligation de respecter les injonctions du procureur et de ses substituts. Tout est lié à la carence de l'autorité de l'État, à la faiblesse ou l'inexistence même de ce qu'on appelle l'État de droit.
Mahamad Ahmad Alabo enjoint également aux magistrats du parquet de soumettre dorénavant toutes les plaintes et dénonciations reçues à la coordination générale de la police pour saisine des unités de la police judiciaire compétente pour enquête. André Kordouma Djingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Gabon, l'opposant Jean Ping recouvre ses droits, dont celui de disposer notamment d'un passeport. Il en avait été privé pendant 5 ans. Cette décision avait été prise par les autorités en réaction aux incessants appels de M. Ping à un soulèvement pacifique des populations contre la réélection en 2016 d'Ali Bongo Ondimba. À la veille des prochaines élections générales, le pouvoir opte pour un apaisement du climat préélectoral, conformément aux résolutions issues du dialogue avec la classe politique en février dernier. À Libreville, c'est une mesure qui fait réagir l'opinion publique, nous dit notre correspondant Ismaël Obiangze.
En quasi-résidence surveillée, Jean Ping n'était plus sorti du Gabon depuis 5 ans. Avec la restitution effective de son passeport, l'opposant recouvre sans doute la liberté de mouvement. Mais pour certains observateurs de la vie politique nationale, il s'agit là d'un non-événement. Thierry Bifegou, journaliste.
Ça change réellement quoi aujourd'hui qu'il ait son passeport? Ça change quoi aussi bien pour la vie du citoyen lambda ou même à la sienne aujourd'hui qu'il ait son passeport? J'ai à la limite un peu pitié.
Dans le camp du pouvoir de Libreville, on salue une mesure d'assouplissement en faveur du plus radical des adversaires politiques du président gabonais. Rodrigue Maïssan Koma est président de l'Association des soldats de la paix.
C'est un acte fort de démocratie, de liberté et surtout d'ouverture d'esprit du président Ali Bongo Ondimba. Et nous pensons que cet énième acte s'inscrit donc dans ce qui est connu du Gabon, hein, ce pays où... La tolérance, le dialogue et la paix sont la leitmotiv.
Franck Djimbi, cadre de l'Union nationale, parti d'opposition, pense que la rétention du passeport de Jean Ping, 5 ans durant, est symptomatique d'un état de non-droit.
Le fait que Ping peut maintenant circuler prouve bien qu'il a bien été en résidence surveillée pendant 7 ans. Et pourquoi était-il en résidence surveillée? Quelle juridiction avait pris une telle décision? Sur quel fondement juridique? Tout ça est assez ahurissant et assez inquiétant quand même pour la BRB.
Selon le politologue Jean-Delors Biogui, il appartient désormais au candidat malheureux à la dernière présidentielle du Gabon de tirer les conséquences de sa privation de liberté.
Jean Ping a perdu 5 années politiques, ce n'est pas rien au regard de son âge, mais en même temps, on aurait pu penser aussi qu'il aurait dû mettre cette année à profit pour consolider sa base au niveau national, de manière à ce que, lorsqu'il ressort 5 ans plus tard, on voit en lui une personne qui était en retrait pour se refaire une santé politique, et maintenant ressortir en argument, en brandissant l'argument de la rétention du passeport comme ayant été un élément bloquant de son épanouissement.
À quelques mois des élections générales du Gabon, le chef de file de la coalition pour la Nouvelle République CNR ne s'est toujours pas prononcé sur sa participation ou non à ces scrutins. D'après son entourage, il pourrait très vite voyager pour rencontrer ses soutiens de la diaspora avec la France comme première destination. Ismaël Obiangze, Libreville pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, une polémique est née autour du marché des timbres fiscaux, notamment ceux de 200 francs CFA. Ces timbres étaient jusque-là produits à l'étranger, notamment au Canada et dernièrement en France. Mais le gouvernement annonce que le pays va produire localement ces timbres fiscaux, évoquant une question de souveraineté. En retirant la production de ces timbres aux partenaires français, certains analystes et observateurs se demandent si le Burkina ne va pas également vers la résiliation des contrats des autres sociétés françaises présentes dans le pays. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Depuis plusieurs semaines, difficile de se procurer les timbres fiscaux, notamment ceux de 200 francs CFA. La Direction générale des impôts présente le nouveau timbre fiscal de 200 francs CFA qui est entré en vigueur depuis jeudi dernier. Les impôts annoncent une résiliation du contrat avec le partenaire canadien qui produisait ces timbres au profit d'un nouveau partenaire, le français. Le colonel Yamba Leonard Ouba, directeur général des affaires immobilières et de l'équipement de l'État.
Celui avec qui nous venons de contracter, on l'a contracté juste pour 1 an, en posant comme condition principale qu'au 31 décembre de cette année 2023, il puisse nous fabriquer ce timbre-là localement au Burkina. Si ce prestataire ne remplit pas cette condition, il peut avoir rupture.
Sur les réseaux sociaux, la polémique s'enfle et mardi dernier, dans la soirée, les impôts annoncent encore que les nouveaux timbres fiscaux autocollants seront produits au Burkina Faso dans 7 mois maximum. Mais le mercredi, tout change. 7 mois, c'est trop long. Au sorti du Conseil des ministres, la question est tranchée. Ces timbres doivent être produits au Burkina et non en France. Bassolma Bazier, ministre de la fonction publique.
Le peuple burkinabé n'est pas opposé au peuple français. Ce que nous dénonçons à travers l'attitude des politiques français, c'est un certain nombre de décisions, un certain type de comportement qui ne permettent pas de toucher du doigt la souveraineté de notre pays et le fait qu'on doit échanger avec la France, les autorités françaises, à part égale, d'égal à égal. Et le Conseil des ministres a tenu à prendre une décision ferme qui est que le timbre sera bel et bien un timbre produit au niveau national et mieux, nous allons aller à une phase de production de timbres numériques.
Adama Bayala, analyste politique, ne comprend pas cette attitude du gouvernement.
C'est une décision symptomatique d'une gestion aventureuse, sans vision, sans objectif, sans cadre de référence, marquée par une absence de communion de vues et de concertation. On en vient donc à se demander si on n'a pas affaire à un groupe hétérogène qui conduit les affaires publiques sur l'inspiration de la rue et de la foule, sans doctrine politique, sans doctrine écologique. Va-t-on également vers la résiliation des contrats des autres sociétés françaises présentes ici au Burkina Faso, ce qui paraît incompréhensible encore que le chef de l'État avait pris l'habitude de dire que ce qui dérange le Burkina Faso, c'est la politique française et non la société française.
La Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'État avait indiqué que les timbres produits localement étaient plus chers que ceux importés. Pour maintenir les prix actuels, ils ont dû recourir aux prestataires français. Mais le ministre de la fonction publique a rassuré que la production de ce nouveau timbre numérique sera prise en charge intégralement par un Burkinabé, quel que soit le coût que cela va impacter au niveau de l'État, car, selon lui, les ressources vont rester au niveau local. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Pour revenir sur la Basketball Africa League, El Ahly d'Égypte est le champion de la balle saison 3 en finale samedi du soir. Les Égyptiens ont pris le dessus sur les Sénégalais de l'AS Douane, battus 80-65 dans la Kigali Arena. De Kigali, Cher Thierry et Yacouba Ouédraogo.
Ça y est, El Ahly d'Égypte est champion de la Basketball Africa League saison 3. En finale ce soir, les Égyptiens se sont imposés devant l'AS Douane. On a vu une grande équipe d'El Ahly qui est rentrée très bien dans son match et qui a joué sur le moral de l'AS Douane. Et finalement, ça a payé pour les Égyptiens parce que les Sénégalais ne se sont pas trop retrouvés dans le match.
La mauvaise entame de la partie est sans doute l'une des raisons de la défaite de l'AS Douane en finale, explique le coach des Gabelou, Mamadou Gueye.
Je pense que nous avons déjà très mal démarré le match jusque dès les premières minutes de jeu. Crayford, il y a deux fautes qui se retrouve sur le banc pendant 8 minutes. Et vous savez, c'est un élément très important dans notre dispositif, surtout offensivement. Nous avons essayé de changer de défense, mais il y avait trop d'incompréhension parce qu'on ne l'a pas très bien préparé, cette situation de jeu.
Selon le coach Mamadou Gueye, désigné meilleur entraîneur cette année, l'AS Douane tire néanmoins beaucoup de leçons positives de sa participation à cette saison 3 de la balle.
Je pense que le bilan est largement positif parce que au début, notre objectif, c'était de se qualifier en demi-finale. Et à partir des demi-finales, on jouera les matchs un par un. Donc, je peux être fier, franchement, de mes joueurs, de tout le peuple sénégalais qui nous ont soutenus depuis le début de cette compétition.
Une compétition dominée par El Ahly. Sur les 8 matchs disputés par les champions égyptiens, ils n'ont perdu qu'un seul, celui face aux Angolais du Petro du Luanda, lors des rencontres de la conférence du Nil au Caire. El Ahly réalise ainsi le triplé cette année, après avoir remporté son championnat national et la Supercoupe d'Égypte, avant cette finale de la balle aussi enlevée. C'est le deuxième trophée de cette Basketball Africa League pour son coach Augustin Dulbé-Bosch, qui avait gagné la première édition avec le Zamalek en 2021.
Ce championnat est différent de la première saison avec le Zamalek.
Lors de la première saison, toutes les équipes n'étaient pas prêtes et ne comprenaient pas ce qu'est un championnat comme celui-ci. Je pense que seules 3 ou 4 équipes étaient compétitives à un haut niveau et nous avons remporté la victoire. Je pense honnêtement que le niveau de basket de cette saison est plus élevé.
En plus du trophée, Alali s'en sort aussi avec la récompense individuelle du meilleur joueur de la rencontre qui est revenu à son intérieur sud-soudanais, Anunua Omo, qui a compilé le plus de points lors de la finale, 22 unités. Pour celui qui est affectueusement appelé Nouni, ce trophée baptisé Hakim Olajuwon est très symbolique.
Le fait de pouvoir revenir, de jouer le championnat et de remporter le titre de MVP ouvrira beaucoup de portes aux jeunes et à la jeune génération. Et je pense que c'est le plus important, honnêtement.
D'autres trophées individuels ont consacré des garçons comme Aliou Diarra du Stade Malien de Bamako, qui a décroché le prix Dikembe Mutombo du meilleur défenseur. Le trophée du joueur fair play est revenu à Will Perry de Ferroviário da Beira du Mozambique. Pendant 3 mois, cette saison 2023 de la balle a mis aux prises 12 clubs qui se sont disputés 38 matchs dans la Dakar Arena à la Kigali Arena.
C'était Yacouba Ouédraogo, Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Au micro, Idrissa Sedudia, à la mise en onde de Lionel Ronanier.